Visa pour l'inconnu, émission présentée par Michel Montbressou et Didier Dumas.
Bonheur de vous retrouver, chers auditeurs, depuis ce temps lointain où nous avons créé des liens forts à l'antenne de Radio Villefranche. Didier Dumas et moi-même, Michel Montbressou, sommes heureux de reprendre une relation auditive avec vous tous sur CFM Radio, la radio que vous écoutez sur la fréquence 90.2, la radio que vous aimez. Notre invité du jour se prénomme et se nomme Claude Nohrek. Qui mieux que lui peut nous dire qui il est ? Un mot cependant pour faire remarquer que son passé professionnel et privé est riche et réussi. Nous nous contenterons aujourd'hui d'évoquer le parcours professionnel de M. Claude Nohrek. Nous voyagerons, explorerons, au cours de l'évocation des différentes responsabilités de notre invité, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Communication, à la maison de la radio, Radio France, à France Musique. Nous évoquerons aussi la médiamétrie, les radios libres et, si le temps le permet, le droit d'asile en France. Je lui donne la parole à ce monsieur Claude Nohrek, qui est notre invité.
Merci pour cette invitation et je suis très honoré d'avoir à réinaugurer une émission que vous avez conduite dans le passé et de l'inaugurer à nouveau aujourd'hui. Merci beaucoup.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Alors, nous allons commencer par vous demander ce que vous avez à nous dire, votre parcours professionnel, quel est-il ?
Si je prends tout le parcours professionnel, ça peut être un peu long, mais comme tout à l'heure vous avez indiqué quels étaient les principales, les moments forts de cette période, je commencerai avec l'éducation nationale, où à l'époque j'ai été nommé secrétaire général à l'Académie de Versailles, et il faudrait peut-être contextualiser la situation. En fait, je suis arrivé dans une académie qui venait d'être créée, j'y suis arrivé en 1986, 1976, et l'académie avait été créée en 1975 par éclatement de l'ancienne académie de Paris, qui était volumineuse, énorme, et qui avait été partagée en trois, Paris, Créteil et Versailles.
Nous étions à quelle époque ?
Alors, c'était 1976, c'était sous le ministère de M. René Haby, qui était ministre de l'Éducation à l'époque. J'y suis nommé et je trouve une situation, lorsque j'arrive, une situation de chaos total. En effet, la rentrée scolaire de l'année 1975, qui s'était fait au moment de l'éclatement de l'ancienne Académie de Paris, avait entraîné une situation totalement ubuesque où les enseignants, quatre mois plus tard, un grand nombre d'enseignants, notamment de maîtres auxiliaires, n'étaient pas nommés dans l'académie, où les parents d'élèves protestaient parce qu'il n'y avait pas d'enseignants devant leurs enfants, où les chefs d'établissement protestaient parce qu'ils n'avaient pas les enseignants, où les enseignants protestaient parce qu'ils n'étaient pas nommés, et où il y avait un nombre considérable de gens sur le tapis et d'autres qui manquaient de pouvoir rejoindre un poste. Cette situation était tellement grave que le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie et des Finances ont décidé de payer tous les enseignants, qu'ils soient à poste ou non, tous les auxiliaires, qu'ils soient à poste ou non. Et sur Versailles, il y en avait quand même quelques 5000. Donc il y a 5000 personnes qui ont été payées, qu'elle soit présente ou pas, qu'elle soit morte entre-temps ou pas, peu importe. Donc il y avait une situation totalement ubuesque.
Mais comment se fait-il une telle mauvaise organisation ?
C'était parce que au partage en trois de l'académie, il s'est produit que la plupart des gens ont voulu rester, des gens qui géraient l'académie ont voulu rester à Paris ou à Créteil, parce qu'à Créteil, il y avait une ligne de RER, de métro direct, alors qu'à Versailles, il fallait prendre le train, puis ensuite, enfin, c'était très, très, ça apparaissait très éloigné. Si bien que, à la rentrée de 1975 et celle de 1976, il y avait, en gros, pour 500 personnes au rectorat de Versailles qui assuraient la gestion de l'ensemble de l'académie, la plus grosse académie de France, avec 80 000 enseignants, 600 000 élèves, la plus grosse académie de France, elle était gérée par des gens qui n'avaient jamais connu une rentrée scolaire, pour la plupart, et où il y avait moins de 50 titulaires de leur poste de fonctionnaire aguerri sur les 500 personnes qui étaient au rectorat. Donc personne ne savait rien faire. C'était quelque chose d'assez épouvantable. C'est sur ces entrefaites que j'ai été nommé.
Eh bien, on vous a donné une bonne position, une bonne responsabilité.
On me l'a donné d'autant plus que j'étais tout à fait jeune, je sortais de l'École nationale d'administration, mais on me l'a donné parce que j'avais une double casquette. J'avais aussi une casquette d'enseignant, puisque j'avais été agrégé dans le passé, et que j'avais enseigné au lycée Louis le Grand à Versailles. Et donc, on comptait sur le fait que je sois du milieu et que je sois en même temps un administrateur pour essayer de remettre tout ça en route. J'ai effectivement pratiqué la pacification de cette académie. J'ai pratiqué la mise en place d'un système qui est devenu un système tout à fait normal, régulé. J'ai exercé mes fonctions pendant 4 ans. Et à mon départ, j'ai pu constater qu'il y avait plus de 490 titulaires de leurs fonctions et qui avaient effectué en moyenne 3,4 rentrées scolaires. Donc, ils savaient faire leur métier, qu'ils savaient l'accomplir. Et donc, c'était pour moi un élément de satisfaction, un grand élément de contentement au moment où j'ai quitté l'Académie de Versailles.
Et après, que se passa-t-il ?
Je quitte l'Académie de Versailles, comme il est de règle pour les gens qui étaient sortis de l'École nationale d'administration. Au bout d'un certain nombre d'années, on doit faire une mobilité. Cette mobilité, je l'ai faite à l'Inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur. Et là, j'ai eu la chance, puisque nous étions en 1981, d'être appelé par quelqu'un qui créait une direction nouvelle du ministère de l'Intérieur, la direction de la formation des personnels de police. J'ai donc été amené à créer cette direction, au sein de cette direction de la formation des personnels de police, de m'occuper de la formation de ces personnels.
Cher Claude Norek, pardon. Donne-moi le temps, je ne me permets pas de vous tutoyer, mais c'est le titre de Jennifer que nous allons écouter maintenant.
Non, mais ça tombe.
Tellement de gens veulent tellement être aimés pour se donner, peuvent tout abandonner. Si l'on savait juste un peu patienter. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. Je me donne, c'est vraiment. J'attendrai que tu
Vous êtes sur CFM Radio 90.2. Vous écoutez l'émission de Michel Montbressou et Didier Dumas, Visa pour l'inconnu. Notre invité, Claude Norek. Alors, nous allons reprendre le cours de l'émission. Claude, visiblement, vous êtes un homme de réforme. Vous êtes maintenant, vous avez quitté le ministère de l'Éducation nationale pour celui du ministère de l'Intérieur. Question, qu'y avez-vous fait de nouveau ?
Au ministère, je voudrais de nouveau contextualiser. C'est en 1981. François Mitterrand vient d'être élu président de la République en proposant de vastes réformes et de vastes changements de politique en France. Au ministère de l'Intérieur, l'une de ces réformes, c'est la création d'une direction de la formation des personnels de police. Jusqu'alors, une telle direction n'existait pas. La formation des personnels de police était un élément tout petit, tout infime de la gestion des policiers en France. Deux caractéristiques à ce moment-là. Les policiers, notamment les gardiens de la paix qui étaient recrutés à hauteur de 3 000-3 500 par an. Et il y avait, pour le concours de gardien de la paix, entre 3 000 et 4 000 candidats chaque année. Ce qui veut dire que quasiment tout le monde était pris. La deuxième caractéristique, c'est que la formation des personnels de police durait un mois. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, après être rentré dans l'école, vous ressortiez, vous étiez un gardien de la paix avec toutes les bénédictions pour pouvoir faire, pour pouvoir agir comme gardien de la paix avec une arme, etc. Alors, je reviendrai sur ce point tout à l'heure, mais la réforme telle que nous l'avons, nous, créée en 1981, et j'ai été partie prenante importante de cette réforme, ça a été d'augmenter d'abord le nombre de gardiens de la paix, puisqu'on était dans une volonté des pouvoirs publics d'augmenter la population des fonctionnaires et de la fonction publique. Et donc, on nous demandait de monter le nombre de gardiens de la paix de 3 500 à 7 000. 7 000 recrutements pour l'année suivante. Alors que dans le passé, il y avait 3 000 candidats à 4 000 candidats. C'était donc une gageure.
Oui.
Il m'a donc été demandé de veiller et de voir trouver les moyens de porter à un nombre conséquent de candidats, le nombre de candidats, de façon à pouvoir choisir parmi eux. Un élément qui pouvait m'aider, c'est que le chômage était en augmentation à cette époque. Cela dit, 7000 candidats, il fallait plus de 7000 postes, il fallait beaucoup plus de candidats pour pouvoir choisir. J'ai donc fait le tour de France et j'ai été invité dans quasiment tous les départements où j'ai tenu des conférences de presse avec l'aide des préfectures, bien sûr, mais également des collectivités locales, des maires et des mairies, et pour essayer de populariser la fonction de gardien de la paix, si bien qu'au terme de cette campagne, à l'année suivante, nous avons eu 35 000 candidats pour 7 000 postes, ce qui était un succès considérable.
C'est une réussite, oui.
Oui, c'était une réussite. Le deuxième élément, c'est que cette formation de un mois nous paraissait extrêmement pas suffisante, incomplète, et elle ne portait que sur des éléments qui étaient des éléments techniques d'intervention sport et d'intervention qui n'étaient pas très suffisantes de notre point de vue pour pouvoir former correctement des jeunes gens à des fonctions qui sont des fonctions d'autorité. Nous avons donc porté, à ce moment-là, la durée de la formation à un an. C'était multiplié par 12, la durée de la formation. Nous y avons inséré des éléments de formation qui étaient des éléments de formation de comportement, des éléments de formation qui tenaient à la connaissance des droits de l'homme et à la connaissance du respect des droits de l'homme. Et donc, ça a été un élément important de des modifications que nous apportions. Je constate aujourd'hui, pour venir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, je constate aujourd'hui que ça n'est sans doute pas suffisant et qu'il va falloir quand même encore approfondir la formation et surtout la formation continue de manière à recycler régulièrement l'esprit de nos policiers de façon à ce que la relation entre le public et la police reste une relation apaisée, saine et de confiance. Ce qui parfois n'est pas le cas. On l'a entendu, en tout cas la presse l'a beaucoup rapporté cet an dernier.
Écoutez, cet esprit créatif a permis quand même un changement important.
Sans doute. Dans le même temps, on a créé un centre de formation à Clermont-Ferrand. C'était un établissement qui est qui avait été complètement créé dans les années précédentes et jamais occupé. Il était prévu à l'origine pour accueillir des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances, sans doute parce que M. Giscard d'Estaing, le précédent président, avait souhaité faire quelque chose pour le lieu où dont il était originaire, c'est-à-dire Clermont-Ferrand et Chamalières, bien sûr. Et ces bâtiments étaient vides, et l'un des enjeux, ça a été de nous dire, vous, direction de la formation des personnels de police, puisque vous venez d'être créé, décentralisez-vous, en tout cas vos services administratifs, à Clermont-Ferrand. Le problème, c'est qu'il y avait des bureaux administratifs, mais il y avait aussi une centaine de chambres pour pouvoir accueillir des stagiaires. Et donc, ça a été l'occasion de créer un centre de formation des personnels de police, une formation permanente, et aujourd'hui qui fonctionne et qui accueille à la fois de la formation permanente de nos policiers, mais aussi dans le cadre de relations internationales, des policiers allemands, des policiers italiens et autres.
Mais vous évoquez les finances, M. Clonoric, mais justement, vous avez dû avoir besoin de finances, vous avez besoin de subventions. Comment avez-vous pu obtenir ces subventions ?
Alors, en 1981, ça n'a pas été très difficile, puisque apparemment, dans le cadre des propositions politiques d'origine et du gouvernement Mauroy, avant le tour de vis qui a été donné et le retour de l'austérité, les bourses étaient assez ouvertes. Ça ressemblait d'une certaine manière à ce qu'on voit aujourd'hui. Pas dans les mêmes proportions, bien sûr, loin de là. Mais ça ressemblait peut-être à ce que le président de la République récemment a annoncé, que la bourse était ouverte.
C'était à l'époque de Pierre Mauroy, là ?
C'était à l'époque de Pierre Mauroy. Par la suite, ce qui était acquis était acquis. Par la suite, les finances ont été un problème beaucoup plus difficile à résoudre pour tous les ministères et donc pour celui de l'Intérieur.
Mission accomplie, Claude Norek, donc dans le cadre du ministère de l'Intérieur. La mission suivante. Encore un autre ministère, je suppose.
En fait, alors que j'étais en train de créer à Clermont-Ferrand et de mettre en place à Clermont-Ferrand cette école et les services administratifs de la direction de la formation des personnels de police, j'ai été convié par le ministre de la communication de l'époque, M. Filliou. J'ai été convié à son cabinet. Il avait entendu parler de moi sans doute en raison des réformes à Versailles, parce que c'était là où j'avais construit une véritable administration, et où il m'a demandé si je souhaitais rejoindre l'audiovisuel public, et notamment FR3, qui était à la recherche d'un directeur administratif et financier. Il fallait à ce moment-là redresser les finances de FR3, et donc j'ai rejoint en 1983, sauf erreur de ma part, oui, en avril 1983, j'ai rejoint FR3 comme directeur administratif et financier.
Dans le cadre de cette mission, il semble que vous soyez venu visiter le département de l'Aveyron, et Rodez en particulier, pour structurer un projet. Et peut-être vous avez quelques mots à dire là-dessus, sur ce point de vue-là.
Pas encore à ce moment-là. C'est beaucoup d'années plus tard, lorsque j'étais à Radio France. Là, j'étais à FR3. Et donc, à FR3, ma première mission a été bien évidemment de tenter de redresser les finances de cette Société Nationale de Programme. Et je vous rappelle, d'autant que nous n'étions plus dans la période Mauroy, nous étions dans la période de l'austérité, du retour aux règles les plus dures de l'économie, en tout cas les finances de ce pays, et où il fallait remettre en place, notamment dans une société nationale publique, qu'il fallait remettre en place les fondamentaux économiques. Et donc, ça, c'était ma première mission. Mais j'en ai eu une autre qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en même temps, arrivait une forte modification dans la manière, dans les techniques et la technologie de la télévision. On passait de la télévision qui était filmée, c'est-à-dire que lorsqu'on faisait un reportage, ben on avait 5 personnes qui venaient parce qu'il fallait poser la caméra, il fallait amener le film, il fallait le développer le soir, il fallait donc préparer tout ça pour les émissions de télévision. Et donc, bien évidemment, ça représentait une forme de travail qui a brutalement disparu grâce à l'apparition de la Betacam, qui est un outil, on dirait aujourd'hui numérique, qui était électronique et qui permettait de faire de la télévision avec des appareils nettement moins importants, qui n'exigeaient pas un traitement ultérieur, puisque c'était des bandes magnétiques que l'on pouvait monter au retour des reportages, et donc ça allégeait fortement le travail. On pouvait donc passer à des équipes de reportage qui étaient de 5 ou 6 personnes, à des équipes modulables entre 2 et 4 personnes, selon l'importance de la prestation à rendre. Bien évidemment, lorsqu'on passe dans une entreprise à des équipes de 5-6 personnes, à des équipes de 2 à 4, ça entraîne des problèmes sociaux très importants. J'ai donc eu à m'affronter à ces problèmes en essayant de rester dans un cadre qui soit un cadre social acceptable. Le principe donc, avec des négociations avec les organisations syndicales, a été de passer à la modulation des équipes et surtout à la modification du travail de ce qui était alors à l'époque appelé des techniciens de plateau, à qui, à FR3, nous avons proposé un changement de métier, pour qu'ils deviennent journalistes reporteurs d'images. Il fallait aussi convaincre les journalistes que ces gens qui n'avaient été que des techniciens puissent tout d'un coup devenir des journalistes. Et vous savez combien il y a, quel que soit le métier, et y compris pour les journalistes, un esprit de corps qui fait qu'on ne souhaite pas voir les canons de sa profession galvaudés. Et donc, il a fallu proposer des formations à tous ces techniciens de plateau, et des formations qui ont duré plus de 2 ans, de façon à ce qu'ils puissent basculer dans le corps des journalistes et devenir des journalistes reporters d'images.
Écoutez, monsieur Norek, vous avez des qualités non seulement créatives, mais aussi novatrices. Et c'est tout à votre honneur. Vous auriez dû être promu au ministère des Finances.
Oh, certainement pas, parce que j'ai toujours eu des relations un peu difficiles avec mes collègues du ministère des Finances, puisque j'étais administrateur civil.
Oui, vous demandiez, c'est normal qu'ils ne soient pas contents.
Oui, et vous allez, si vous continuez à me questionner sur mon parcours de carrière, je pourrais vous dire qu'à un moment donné, j'ai eu des relations extrêmement tendues avec mes collègues du ministère de l'Économie et des Finances.
Nous allons nous accorder une petite pause en écoutant Georges Moustaki, Ma liberté. Ça sera la liberté d'élocution, de parler, la liberté que vous avez, monsieur Norek. Le morceau a été enregistré en live, donc soyez patients. Georges Moustaki arrive tout doucement avec sa voix douce.
Bon, t'en es où, là?
Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire.
et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Vous êtes à l'écoute de CFM Radio 90.2. Nous, dans le cadre de l'émission Visa pour l'inconnu, notre invité, c'est M. Claude Norek. Alors, j'ai entendu parler, M. Claude Norek, de la création d'une start-up. Qu'en est-il ?
Alors, dans l'audiovisuel public, traditionnellement, il y a une espèce de forme de spoil system qui fait qu'à chaque changement de gouvernement, un certain nombre de responsables sont remerciés. J'ai été remercié en 1986-87 lors de l'arrivée de M. Chirac au gouvernement. Je n'ai aucune antipathie à l'égard de M. Chirac, bien au contraire. Mais j'ai été remercié à ce moment-là. Et donc, j'ai été un peu sur le tapis, sur le marché. Et donc, avec d'autres camarades, nous avons créé, en fait à trois, nous avons créé une start-up.
Excusez-moi, mais là, déjà une question quand même. Vous semblez avoir fait du bon travail. Arrive une autre personne, et c'est une... Alors, ce qui s'est passé, le rejet, si vous permettez l'expression, c'est parce que c'est une question politique.
C'est pas que j'étais... Oui, je devais avoir une étiquette politique. Je n'appartenais à aucun parti, mais je devais avoir une étiquette politique, puisque c'est une proposition de Monsieur Filiou qui a fait que j'ai été directeur à FR3. Et donc, on pouvait supposer légitimement que j'étais encarté à gauche, ce qui n'était pas le cas. Et j'ai été remercié dans des conditions tout à fait habituelles et normales dans le milieu de l'audiovisuel public, quelles que soient les qualités que j'aurais pu avoir par ailleurs.
Non, mais ça paraît pas normal, mais en fait, écoutez,
Ça avait fonctionné comme ça. Ça avait été même beaucoup plus raide quand François Mitterrand est arrivé au gouvernement, où les gens qui précédaient ont été sèchement mis à pied. Je pense par exemple à M. El Kabbach, mais c'est pas le seul. Jean-Marie Cavada, par exemple, a été mis à pied par la gauche, alors qu'il ne pouvait pas être soupçonné d'être un homme de droite.
Non, bah alors, c'est ça qui est dommage. Ce ne sont pas les qualités des personnes qui comptent, c'est l'idée que l'on peut avoir sur la politique. C'est ça qui ne va pas.
C'est un système qui fonctionne comme ça aux États-Unis depuis des temps immémoriaux, ça s'appelle le spoil system. Moi, ça ne me scandalise pas totalement. Ce qui serait regrettable, c'est d'être remplacé par des gens qui sont incompétents.
Est-ce que ça a été le cas ? De toute façon, tout ce dont on vient de parler, c'est le produit du capitalisme, qui est la moins mauvaise des solutions.
Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. La moins mauvaise à l'exception de toutes les autres. Enfin,
d'accord.
Bon. Et, ou la meilleure à l'exception de toutes les autres.
C'est ça.
Et non, mais moi, j'ai été... Alors, à la 3, les personnes qui m'ont remplacé immédiatement, je n'ai pas eu une très bonne opinion. Mais vous savez, comme dit le proverbe de ceux qui s'en vont, on succède à des incompétents, et on est remplacé par des courtisans.
C'est, donc, bien dit, mais c'est dommage.
C'est comme ça que ça s'affirme. En tout cas, moi, personnellement, j'ai constaté que le président qui a été nommé par la suite a été un excellent président de FR3. Donc, je le dis simplement, j'ai pas d'acrimonie.
Avez-vous nommé ?
Renéant, il s'appelait. Ouais. Renéant, qui était un président de la 3 et qui était un excellent président de FR3. Donc, me voilà un peu sur le tapis et avec des camarades, nous créons le titre était ronflant, ça s'appelait la Société Internationale d'Image et de Son, qui était une société de production audiovisuelle où nous étions trois et où nous avons fabriqué des petits programmes qu'on vendait en Afrique. Notamment des programmes de formation médicale. Et on a réussi à créer une entreprise qui tenait la route. Nous avons d'ailleurs, à cette occasion-là, employé quelqu'un qui est connu aujourd'hui et qui s'appelle Patrick Cohen, et qui est très connu et qui a été l'un de nos collaborateurs au sein de la S2IS comme présentateur de télévision.
Ça vous fait pas drôle lorsque vous le voyez ?
Ça me fait pas drôle lorsque je le vois. En fait, ce qui me fait drôle, c'est que je cite Patrick Cohen, que nous avons recruté à ce moment-là et que je ne connaissais pas encore. Il venait de la radio, de France Info, qui avait été créée. Et il est devenu le père de mon petit-fils, qui est d'ailleurs ostéopathe à Bertholène et qui est un excellent ostéopathe. Et je vous conseille d'aller de vous y rendre si vous avez des problèmes.
Vous savez qu'il ne faut pas faire de publicité.
Il n'y a aucune publicité là-dedans. Surtout qu'on ne fait jamais
de publicité. C'est une recommandation.
Surtout qu'on ne fait jamais de publicité pour les gens du corps médical. C'est interdit.
Voilà.
Et ce n'était pas une publicité, c'était un avis.
D'accord. Bon. Alors, on va poursuivre notre conversation. Avez-vous tout expliqué sur la start-up en question ?
Oui, je crois que bon, c'était quand même une toute petite entreprise, puisque nous étions trois et nous avions quelques emplois, disons, de ponctuels, comme celui de Patrick Cohen, qui était pour une émission.
Alors, la suite du programme, M. Claude Honoric ?
Par la suite, j'ai réintégré le ministère de l'Intérieur, au bout d'un certain temps, où j'ai dû m'occuper à la direction de la liberté publique, des libertés publiques et de la circulation transfrontière, joli nom, j'ai dû m'occuper des étrangers et surtout du droit d'asile. Il m'a été confié la représentation européenne du droit d'asile, puisque nous étions en négociation au sein de l'Europe pour que le droit d'asile soit pris en charge par l'ensemble des pays européens, en tout cas qu'on le normalise et qu'on le légalise dans tous les pays, ce qui n'est pas encore le cas, hein. Donc là, je vous dirai pas que j'ai gagné, que j'ai eu un succès considérable dans ma fonction, mais ce dont je suis fier, c'est que dans la période où j'ai été à ces affaires-là, pour les demandeurs d'asile, c'est qu'on n'a pas péjoré, jamais, l'accueil des demandeurs d'asile en France, contrairement à ce qui s'est passé par la suite, où on a diminué les garantit les aides et les moyens d'aide aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.
Est-ce qu'on peut vous interroger sur le regard que vous portez aujourd'hui sur les flux migratoires qui sont la conséquence de positionnement économique des nations à travers notre planète ?
À l'époque, j'ai écrit un petit que sais-je qui s'appelle « Le droit d'asile en France », tout simplement. Et c'était une époque où je constatais que le droit d'asile, qui avait été bien rempli par notre pays depuis les années 52, date de la création du système du droit d'asile par l'ONU à Genève, et ensuite prise en charge en France, 52-54, on avait très bien géré l'accueil des réfugiés, notamment des réfugiés qui venaient des pays de l'Est après les affaires de Hongrie, notamment les réfugiés qui venaient de l'Asie du Sud-Est, hein, à la chute du régime du Sud-Vietnam, également à l'époque du Cambodge. Et vous vous souvenez combien l'affaire cambodgienne a été douloureuse, hein. Et la France avait très bien rempli son rôle pour accueillir des réfugiés et leur fournir le droit d'asile, avec un droit immédiat au travail et un droit immédiat au séjour. Mais dans les années 80, les choses se sont péjorées. D'abord à partir de 73, je vous rappelle que c'est la crise économique qui commence avec la crise pétrolière et les flux migratoires deviennent des flux extrêmement lourds. Et donc en 1990, à l'époque où j'ai écrit le droit d'asile en France, on comptait dans le monde 12 millions de réfugiés. On en compte aujourd'hui 80 millions de personnes déplacées, dont 26 millions de réfugiés. On n'est plus du tout dans les mêmes chiffres. Les sources et les origines de ces départs, de ces fuites, sont maintenant devenues des choses extrêmement lourdes, comme ce qui se passe en Syrie, mais ce qui se passe dans le sud de l'Afrique, hein, au Congo, ce qui se passe également dans la corne de l'Afrique, hein, au Soudan, ce qui se passe en Afghanistan, donc des événements beaucoup plus lourds. Et aujourd'hui, de plus en plus, ce qui devient tragique, c'est les fuites à cause des fuites de chez soi, les déplacements en raison des problèmes climatiques. Ce qui deviendra dans l'avenir la principale préoccupation. Lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, nous avions 28 000 demandeurs d'asile par an. Aujourd'hui, on en compte 150 000. On n'est donc pas du tout dans les mêmes chiffres.
Vous donnez des chiffres intéressants.
Je ne me permettrai pas d'apporter des solutions aujourd'hui. En tout cas, le que sais-je que j'ai écrit peut servir de base pour la connaissance historique des choses, mais certainement pas pour affronter les problèmes d'aujourd'hui, qui sont des problèmes qui, à mon sens, doivent être affrontés sur le plan européen et sur le plan mondial.
Certainement.
Cependant, une constante, c'est que ce soit à mon époque ou que ce soit aujourd'hui, il faut constater que la majeure partie des personnes déplacées se déplacent avec leurs pieds, à pied, et que ce sont les pays autour qui sont les pays d'accueil. D'ailleurs, lors de la guerre d'Espagne, le pays d'accueil a été la France, c'était le pays voisin. Et aujourd'hui, lors de la guerre de Syrie, le pays d'accueil principal, c'est la Turquie.
Alors, vous voyez, les mentalités, à l'époque, lorsque ces gens-là sont venus chez nous, je veux parler des Espagnols, ils se disaient presque méchamment qu'ils venaient manger le pain des Français. Alors qu'en fait, ces gens-là, ils ont amené beaucoup à l'économie de notre pays. Ils ont produit, ils ont amené des idées, ils ont travaillé. Et je crois qu'il faut voir les choses positivement plutôt que parfois être un peu rapide dans les constatations.
Bien évidemment, mais il y a un tout petit bémol que je voudrais mettre à ça, c'est vrai. Mais il y a un tout petit bémol, c'est que les Espagnols étaient sur une base de culturelle totalement identique à la nôtre, quasiment totalement identique à la nôtre. C'est beaucoup plus difficile avec des gens qui viennent d'Afghanistan ou avec des gens qui viennent de la Corne de l'Afrique ou qui viennent de Syrie. Encore que ceux qui arrivent jusqu'à nos pays, il ne faut pas se faire d'illusions, ce sont ceux qui sont les plus diplômés, ceux qui sont les plus faciles à intégrer. Et il faut bien se rendre compte de ça, et de manière à avoir une vision qui soit une vision équilibrée et non pas une vision purement négative comme on le voit souvent.
Absolument.
Vous écoutez CFM sur 90.2 à Villefranche-de-Rouergue. Nous allons faire une pause musicale en écoutant Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel.
Look at son. Joe to Joe has left and gone away.
Vous écoutez Visa pour l'inconnu, émission animée par Didier Dumas et Michel Montbressous. Nous avons un invité de marque, M. Claude Norek.
Alors Claude Norek, on vous a écouté attentivement. Vous passez allègrement et habilement, devrais-je dire, d'un ministère à l'autre. Donc là, on va découvrir votre passage, remarqué encore une fois, au ministère de la Communication.
Je suppose que cette perception que l'on avait de moi d'être quelqu'un de gauche devait être marquante, puisque au retour à l'arrivée de Monsieur Jospin aux affaires, au second mandat de François Mitterrand, Madame Tasca est nommée au ministère de la Communication et elle fait appel à moi pour devenir conseiller technique, puis prendre la direction de son cabinet. Comme conseiller technique, j'ai assuré la rédaction de la loi qui a rassemblé France 2 et France 3, la loi sur la présidence commune, qui a été rédigée essentiellement par moi. Mais qui a dû avoir le recours à l'article 49.3 parce que pour pouvoir passer, ce qui montre qu'il était quand même pas tout à fait accepté par, en tout cas par les élus, par les députés. Voilà. Bien, écoutez, je suis donc au ministère de la Communication et assez rapidement, j'y reste un an et demi, deux ans, et assez rapidement, c'est Monsieur Maheu qui était président de Radio France. Qui, à l'occasion d'une grève extrêmement dure à Radio France, me demande de rejoindre Radio France pour pouvoir assurer une direction générale adjointe chargée des finances et chargée des relations sociales.
Alors il se passe quoi là, Monsieur Norek ?
Je rejoins Radio France comme directeur général adjoint et ma principale mission à ce moment-là est de nouveau de redresser les finances de la société de programme qui était en difficulté. Ce que je fais avec le concours, bien sûr, des équipes et avec le concours de l'autre directeur général adjoint, puisque nous étions deux, je procède au redressement économique de la société. Quelques années plus tard, à l'arrivée de Jean-Marie Cavada, Jean-Marie Cavada est nommé président de Radio France et celui-ci me demande de le rejoindre, de prendre la direction générale de l'entreprise. J'ai eu un temps de travail absolument que j'ai beaucoup aimé avec Jean-Marie Cavada. C'est un temps de travail où j'ai pu m'investir notamment dans la musique. Je vous rappelle que Radio France est une société de musique puisqu'elle a deux orchestres, des plus prestigieux orchestres de ce pays, l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique, pour lesquels j'ai participé au recrutement des chefs et j'en ai été très heureux. On a recruté Monsieur Mazour, qui a été un grand chef d'orchestre, et également Monsieur Myung Woong Chung, qui a dirigé l'Orchestre Philharmonique et qui l'a dirigé pendant de très nombreuses années de manière continue, ainsi que Monsieur Mazour. Ils ont été maintenus alors que nous n'étions plus aux affaires plus de 10 ans, l'un et l'autre, donc ce qui prouve qu'on avait recruté d'excellents chefs. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai été amené à accompagner les orchestres dans les tournées internationales et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, de manière à pouvoir participer avec eux et comprendre leurs besoins et pouvoir répondre à ces besoins de façon permanente.
On n'en sommes pas à la fin, mais lorsque déjà vous regardez votre vie, que dites-vous de ce qu'elle a été ?
Vous avez varié, extrêmement varié. Je suis allé d'un côté à l'autre, j'ai été bourlingué. J'étais peut-être comme la coquille de noix portée par la vague. Hein.
Alors, on va quand même rester un tout petit peu plus longtemps sur votre passage à la Maison de la Radio, puisque vous avez eu entre les mains un chantier plutôt phénoménal. Vous allez nous en dire quelques mots, c'est celui de mettre en conformité de sécurité les bâtiments, et ça n'a pas été une mince affaire. Vous avez une longue histoire à nous raconter.
Déjà, situez-nous le bâtiment dont on va parler.
Alors, attends, contexte. Cette intervention arrive juste après les Twin Towers de New York, hein, les attentats terroristes, c'est à ce moment-là qu'on va se préoccuper des problèmes de sécurité des bâtiments, dans de nombreux bâtiments. Il y avait déjà des problèmes qui étaient soulevés à propos de l'amiante, mais ça ne concernait pas vraiment Radio France. Radio France a eu la chance de ne pas être un bâtiment plein d'amiante. Radio France, la maison de Radio France, qui est devenue maintenant aujourd'hui la maison de la radio et de la musique depuis 3-4 jours, Radio France, la maison de Radio France a été inaugurée par le général de Gaulle en 1963. C'est un bâtiment
énorme
qui abrite 5000 personnes et qui à l'origine avait été conçu pour la radio et la télévision. Donc on a des studios de radio, on a des studios de télévision et puis on y a la plus grande discothèque de France, qui recueille le plus grand nombre de disques, y compris des incunables. Ce sont des disques, des rouleaux de musique, de disques à la cire. On dispose d'une somme considérable. C'est la plus grande, je pense même d'Europe, hein, discothèque d'Europe. Et donc il y a ça, il y a le musée de Radio France. Ça accueille bien évidemment les deux orchestres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également le chœur de Radio France, un des rares chœurs professionnels de France, la maîtrise, où l'on partage l'éducation des enfants entre l'éducation musicale à Radio France et l'éducation dans des lycées partenaires. Donc c'est une maison considérable. À la suite de la des Twin Towers, nous procédons à des vérifications qui d'ailleurs avaient déjà été faites auparavant mais n'avaient pas attiré l'attention de mes prédécesseurs. Nous nous rendons compte que le temps d'évacuation de la maison de la radio en cas d'incendie est de l'ordre de 30 à 40 minutes dans la meilleure des situations. On fait des formes d'évacuation et on vérifie le temps. Et les techniciens, notamment les pompiers, me disent le risque d'effondrement de la tour centrale qui pourrait s'effondrer sur tout le reste du bâtiment, c'est de 11 minutes. 11 minutes, 30 minutes, 30 à 40 minutes, dans le meilleur des cas, combien de morts ? Ben beaucoup, nécessairement. Nous prenons donc conscience de cette affaire-là, et en liaison avec la préfecture de police qui suit ces affaires, nous lançons un programme de rénovation, de remise en sécurité, en conformité de l'ensemble de la maison de Radio France. C'est un énorme projet. 150 millions d'euros au départ de prévu, et l'occasion d'essayer de rénover au maximum nos studios, qui étaient des studios de télévision, mais qui ne fonctionnaient, on les louait à des sociétés de production du visuel, mais on pouvait en faire une meilleure utilisation. Donc on fait ce projet, et c'est là où j'ai des relations qui sont un peu difficiles avec le ministère des Finances, parce que la principale idée du ministère des Finances, c'était de dire « ce bâtiment est trop dispendieux, et d'ailleurs il occasionne une forme d'esprit de corps » des membres des quasi-fonctionnaires de Radio France, et je dis bien quasi-fonctionnaires, parce que c'était comme ça qu'on était vus, y compris nos journalistes, ce qui ne leur ferait pas plaisir.
Qu'en était-il ?
C'était des journalistes.
Oui, d'accord.
Il y avait des effectifs un peu nombreux, il y avait des formes de protection sociale, sans aucun doute, proches de la fonction publique, plus proches de la fonction publique. Je n'ai vu qu'un seul licenciement dans les 10 ans ou 15 ans où je suis resté à Radio France. Je n'ai vu qu'un seul licenciement, par exemple.
Oui, ce n'était juste qu'en partie dans ce qui était reproché.
Oui, c'était une partie qui était reprochée. Et le ministère des Finances trouvait que l'occasion était très belle pour nous faire partir à la plaine Saint-Denis, dans le 93, et faire de la maison de la radio un hôtel avec un ensemble commercial à la base, etc. Enfin bon, un grand hôtel, évidemment, international, de luxe. C'était pas ma conception des choses. Et donc je me suis battu, et nous avons réussi à lancer un programme de rénovation de l'ensemble de la maison de la radio, qui, en fin de course, a coûté beaucoup plus cher, mais comme tous les grands projets de tous les que je connaisse, que ce soit les Halles de Paris, que ce soit tous, finissent par coûter le double de ce qui était prévu à l'origine.
Le double, le triple ?
Celui-là a coûté le triple, oui, mais beaucoup coûte beaucoup plus cher. J'ai vu en Allemagne, par exemple, que l'aéroport, qui n'est pas encore en route, coûte 7 fois le prix initial prévu.
Oui, mais la garder.
Et c'est des Allemands.
Ouais. Non, mais ça a permis de garder ce bâtiment pour ce qu'il était prévu.
Exactement. Et ça a permis surtout de créer le plus bel auditorium de France, qui est un auditorium avec les musiciens au centre et tout autour, en cercle, les spectateurs, ce qui n'existe nulle part ailleurs en France.
Mais c'est extraordinaire, ça.
Oui, c'est extraordinaire.
Claude Norek, il y a quelque chose qui ne peut pas vous échapper, en tout cas nous échapper, c'est votre expertise sur la notion d'audimat. Alors, quand on est une radio locale, une radio associative comme les CFM, évidemment on se pose des questions sur le niveau d'écoute, qui est très important, et donc vous êtes devenu et vous êtes un expert sur le sujet. Et on ne vous laissera pas partir sans que vous nous ayez parlé de ce sujet qui nous intéresse beaucoup.
Expert est un grand mot, mais c'est vrai que j'ai enseigné l'économie de l'audiovisuel et notamment la mesure de l'audience. Je l'ai enseigné pendant une dizaine d'années comme professeur associé à l'université Paris 2 à Sas. J'ai d'ailleurs donné des conférences dans le monde entier, en Espagne, au Liban, en Égypte, en Bulgarie, en Roumanie, sur ces sujets. Alors, l'audience. En radio, c'est assez simple. Aujourd'hui, il existe, c'est la société Médiamétrie qui, en France, se charge de la mesure d'audience dans l'audiovisuel, radio et télévision. Pour la radio, on ne peut pas installer un appareil qui permette de savoir qui écoute quoi, quand. Donc, on a un système qui s'appelle le 126 000, c'est-à-dire que c'est 126 000 interviews par an qui sont effectuées à raison d'environ 500 par jour. 500, c'est le nombre d'appels, mais ce qui représenterait 180 000 personnes interviewées. Mais comme ensuite, il faut recadrer avec les données démographiques, c'est-à-dire avoir quelque chose de représentatif en âge, qu'on représente l'ensemble de la population française, les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés, que ce soit une représentation aussi socio-professionnelle, hein, les diverses catégories socio-professionnelles, agriculteurs, retraités, actifs, etc. Donc 126 000 par an. Ça donne lieu donc à 126 000 interviews par an où l'on demande aux gens leur écoute de la radio la veille, quart d'heure par quart d'heure. Et cette écoute de la radio la veille, quart d'heure par quart d'heure, elle est publiée 4 fois par an, au 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre. Cette publication, elle se présente sous deux formes. Une forme qui s'appelle l'audience cumulée, c'est-à-dire le nombre d'auditeurs qui sont venus une journée donnée à la radio et qui ont écouté telle ou telle radio. L'audience cumulée est un élément qui est important pour les entreprises de radio. Plus important encore, c'est pour la vente des spots publicitaires et l'évaluation du coût publicitaire qu'on peut demander à ceux qui veulent faire passer la publicité, c'est la part d'audience. La part d'audience, c'est la part de chacune des radios dans l'audience générale. C'est ainsi que, récemment, le 15 janvier, vient de paraître la dernière étude de Médiamétrie, et cette étude de Médiamétrie montre que France Inter est la première des radios de France, ce qui n'était pas le cas dans le passé, puisque c'était des radios généralistes, mais RTL et Europe. Hein.
Mmh. Oui, mais est-ce qu'ils ont le même point de diffusion? En fait, ils n'ont pas les mêmes réseaux.
Ah, bien évidemment, ils n'ont pas le même réseau. Encore que RTL ou Europe ont des réseaux à peu près similaires à celui de Radio France. Oui, certes, Radio France a un gros avantage.
Bah oui.
Mais cet avantage, en dépit de cet avantage, je rappelle que pendant des années, Radio France, et notamment à l'arrivée des radios locales, et qui ont été quand même un élément clé et un élément de respiration dans ce pays, qui a permis de remettre en état la radio publique, de le mettre à son niveau, en dépit de ça, pendant un certain temps, Radio France était au-dessous de RTL et au-dessous d'Europe. Ils sont revenus maintenant à un niveau supérieur. Mais c'est vrai qu'ils ont un avantage qui est celui de la bande, que ce soit de la bande FM, hein, puisqu'ils ont n'ont pas une priorité particulière devant le CSA, mais ils ont une antériorité. Ça fait longtemps qu'ils ont les antennes.
Claude Norek, merci. Vous nous avez passionnés, comme vous avez passionné l'ensemble de nos auditeurs. Pour une première émission, nous avons eu une chance inouïe de vous avoir comme premier invité. Merci pour ce moment passé avec vous. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois avec Michel Montbressou pour l'émission Visa pour l'inconnu.